L'évangile que nous venons d'entendre est un évangile, comme tous les évangiles, qui nous interpelle et qui est sévère quelque part, qui est radical. Il annonce, que le Seigneur annonce, que ceux qui vraiment suivent Jésus, c'est vraiment ceux qui l'accueillent dans leur vie totalement. Et nous pouvons, et donc ça peut être des gens qui sont au final, à la base, très loin de Dieu, et nous pouvons nous demander, nous interroger sur... Est-ce que nous sommes ce premier fils qui dit oui et qui n'y va pas, ou est-ce que nous sommes ce deuxième qui dit non et qui y va? Pardon, c'est l'inverse en fait. Qui dit non, le premier dit non et y va, et le deuxième dit oui et n'y va pas. Ou bien est-ce que nous sommes des gens qui ont dit oui dès le début, comme les publicains et les prostituées, et qui maintiennent le cap? C'était pas à moi de juger cela, mais c'est important de se poser la question. Parce que c'est pas parce que nous disons oui, donc oui, dans une première attitude, que nous disons oui, même en venant dans cette église ce matin, que pour autant, nous disons, nous allons vraiment à la vigne du Seigneur. Et cette interrogation doit nous tarauder un peu, mais non pas pour nous décourager. Parce que à tout moment de notre vie, nous pouvons changer. Rien n'est jamais fini jusqu'au terme de notre vie, à notre mort bien sûr, où là c'est la grande décision finale, mais nous pouvons toujours changer un moment dans notre vie et il est encore temps de se convertir. Nous sommes encore dans les temps de la conversion. Et pour vivre ce temps de conversion, pour vivre cette conversion que le Seigneur nous invite avec pressant, de façon pressante, puisque cet évangile est quand même difficile, dur, et Jésus est sévère avec nous, eh bien, pour bien le vivre, eh bien, il existe des saints qui nous aident de façon extraordinaire. Bien sûr, la première des saintes, c'est la Vierge Marie, mais ce n'est pas d'elle dont je vais parler aujourd'hui. Et elle sera heureuse que je parle d'une autre sainte qui a aimé Marie de façon étonnante aussi, même si elle n'en parle pas énormément dans ses écrits, mais elle l'a vraiment aimée. Elle dira par exemple « Ne craignez pas d'aimer trop Marie, vous ne l'aimerez jamais assez. » Donc ça dit déjà tout. Puis ensuite, je vous invite à lire sa poésie sur Marie. Non, cette sainte, c'est celle que nous fêtons aujourd'hui, 1er octobre. C'est Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Vous le savez, elle est docteur de l'Église, déjà depuis 1997. J'ai eu la chance, j'étais jeune prêtre, j'ai eu la chance, moi, d'être sur la place Saint-Pierre, pas très loin du Saint-Père, parce que j'étais à Lisieux à l'époque, et donc pas très loin du Saint-Père au moment de cette proclamation. C'est un moment fort. On ne devient pas docteur simplement parce que le pape, il a une petite dévotion sympathique, il se dit tiens, je vais la mettre en avant. Mais elle est devenue docteur parce qu'elle avait quelque chose de nouveau à enseigner. Elle enseignait quelque chose qui était présent bien sûr dans l'Écriture sainte, dans la Bible, dans la parole de Dieu, mais elle mettait une lumière nouvelle sur la compréhension de l'Évangile. Et cette lumière nouvelle est valable jusqu'à la fin des temps. C'est un enrichissement de la tradition de l'Église de façon forte, valable jusqu'à la fin des temps. Elle est donc docteur parce qu'elle le mérite. Elle est docteur de la science de l'amour divin, dira Saint Jean-Paul II, qui l'a donc déclarée docteur. Elle sera déclarée docteur le jour du dimanche de la mission, parce que vous savez que Thérèse de Lisieux est aussi patronne des missions aux côtés de Saint François-Xavier, parce que elle, Saint François-Xavier, a parcouru le monde, mais elle, Thérèse, vivra 24 ans, ne bougera pas, fera des petits, avec son père, elle fera quelques petits pèlerinages mais avant de rentrer au Carmel, mais sinon elle rentrera au Carmel, elle mourra Carmel de la tuberculose à l'âge de 24 ans. Rien d'extraordinaire, on n'en parlera pas, on ne parlera pas d'elle, de son vivant, et on n'en parlera qu'une fois qu'elle sera morte. Elle est vraiment l'illustration de cette parole que Jésus a dite, qui s'appliquait d'abord à lui, mais ensuite à certain nombre de saints. Si le grain tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Thérèse mourra en portant beaucoup de fruits. Patronne des missions, Hein, nous sommes aujourd'hui aussi, c'est le congrès des missions en France, parce que la France reste, l'Église de France reste en souffrance, pauvre, s'appauvrit de jour, d'année en année, et en même temps, c'est très étonnant, le pape François le reconnaît aussi, c'est une Église qui frémit toujours un peu comme un volcan qui bouillonne en permanence, et pourtant qui semble éteint. Voilà, c'est ça la France. Je ne sais pas ce que ça fera. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose. Et Sainte Thérèse de Lisieux, elle est française, vous le savez comme moi. Donc on en est fiers. C'est pour cela qu'elle est patronne secondaire de la France, aux côtés de Jeanne d'Arc, la patronne principale étant la très sainte Vierge Marie, hein, que l'on fête au moment de son Assomption, le 15 août. Et donc c'est pour cela que le 15 août est férié chez nous. Hein, ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Hein. Donc, Sainte Thérèse est importante pour nous, hein, à plus d'un titre. Nous fêtons cette année les 150 ans de sa naissance. Thérèse est née en 1873. Et nous fêtons aussi les 100 ans de sa béatification. Donc, elle a été béatifiée en 1923. Elle sera canonisée en 1925. Très vite. Hein. Thérèse, c'est quelqu'un qui, donc, de son vivant, il ne se passe rien, on ne voit rien, en tout cas, sauf dans le cercle restreint, et encore, beaucoup de sœurs de son Carmel n'ont rien vu, n'ont rien compris. Après, autour d'elle, il y avait quand même des gens qui disaient « Tiens, elle est quand même étonnante ». Mais voilà, c'était presque rien, Thérèse. Elle vit 24 ans, elle meurt en écrivant sa vie à la demande de sa supérieure, hein, donc Carmel de Lisieux. Mais c'est juste après sa mort, ce petit livre où elle avait écrit sa vie, qu'on appelle aujourd'hui Histoire d'une âme, eh bien ce petit livre va être imprimé à quelques exemplaires parce qu'il était de tradition au Carmel, il est toujours de tradition, d'envoyer dans tous les Carmels, je pense de France, d'envoyer une notice nécrologique sur la sœur qui vient de mourir. Donc ils se sont dit, tiens, on va envoyer dans tous les Carmels ce qu'a écrit Thérèse, et puis ils vont pouvoir le lire pendant le repas. Et il y en avait de trop, donc ils en ont mis quelques exemplaires à l'accueil du Carmel de Lisieux, qui était un Carmel, là encore, dont personne ne parlait. Hein. Petit Carmel, tranquille, à l'époque il y avait des vocations, donc ça remplissait quand même, mais ce n'était pas un Carmel repité. Et donc ils en mettent dans l'accueil, dans le service d'accueil du Carmel de Lisieux. Et là, les gens en achètent, ça coûtait 2 francs, presque rien, en achètent, et les gens reviennent, d'autres reviennent pour en acheter. Ils disent, mon cousin, mon ami l'a lu, je voudrais en avoir un moi aussi. Alors les carmélites, un peu embêtés, se disent, bon, on va réimprimer. Et ça a été un peu comme le feu quand on le met dans un coin. Dans un coin d'une maison où il y a de la paille, eh bien, le feu a pris très vite. Ils ont réimprimé, on a commencé à traduire. Toujours est-il que quelques années plus tard, Thérèse était connue, et si vous regardez bien, si vous voyagez, vous verrez, la statue de Thérèse est présente dans le monde entier. Elle est même connue dans les milieux musulmans. Thérèse a franchi toutes les frontières. Elle est connue aussi dans les milieux orthodoxes, etc. Et donc, on met des statues partout. Il y en a dans toutes. Moi, parfois, partout où je passe dans les églises, je regarde s'il y a une statue de Thérèse. Et même quand je ne regarde pas, je finis par la voir. Donc, elle est toujours là. C'est toujours plus ou moins la même statue, d'ailleurs, en plâtre. Voilà, parce que c'est la même époque. Voilà. Et Thérèse a été vénérée et aimée. Et Thérèse s'est beaucoup manifestée. Elle s'est beaucoup manifestée pendant la Première Guerre mondiale, de façon étonnante. Le Seigneur voulait, de toute évidence, que Thérèse devienne une sainte aimée et connue du monde entier. Et pendant la Première Guerre mondiale, très régulièrement, elle s'est manifestée à des soldats en difficulté, elle en a protégé un certain nombre, elle en a guidé d'autres. L'odeur de rose aussi caractéristique de la manifestation de Thérèse aussi s'est beaucoup manifestée. Au moment où elle a été, il ne faut pas que je sois trop long quand même, il faut que je fasse gaffe. Au moment où elle a été bien connue, donc on a fait commencer son procès de béatification, l'engouement, hein, même les papes vont dire que c'est la plus grande sainte des temps modernes. Le pape actuel, le pape François, le livre, un des livres préférés du pape François, c'est la petite Thérèse de Lisieux. Hein, c'est les écrits de Thérèse. Les papes, tout le monde va être touché par le message de Thérèse. Tout le monde. Un certain nombre vont être touchés pour le côté très simple, d'une sainte très proche de nous et dont la prière est très efficace auprès du cœur de Dieu. Hein. Elle dira, le bon Dieu ne peut rien me refuser puisque je ne lui ai rien refusé sur la terre, comme la Vierge Marie. Hein, il y a quelque chose qui, elles se ressemblent toutes les deux. Donc Thérèse va être connue et au jour où on va la déterrer du cimetière de Lisieux, on peut aller au cimetière où elle a été enterrée la première fois au début. Hein, il y avait un cimetière, c'est dans le cimetière communal parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cimetière dans le Carmel, donc elle a été enterrée à l'extérieur dans le cimetière communal. On peut y aller encore aujourd'hui, il y a un carré et là on a une croix où c'est marqué que Thérèse était enterrée ici au début. Quand ils l'ont déterrée, son corps était complètement décomposé, elle l'avait prédit, elle avait dit, parce qu'une sœur lui avait dit, oui, bah vous aurez peut-être votre corps qui va se conserver, elle dira, non, non, parce que les gens ne croiront pas en ma petite voix. Ils diront, c'est une trop grande sainte. Et le danger aujourd'hui, c'est que Thérèse, on la considère comme c'est une très grande sainte, mais pas une sainte inaccessible, et pas une sainte dans laquelle on ne pourrait pas marcher sur son chemin. Et donc quand ils l'ont déterrée, eh bien, c'est échappé une odeur de rose, extraordinaire, et surtout, parce que c'est ça le plus important, il y a eu de nombreuses conversions, dont le maire de Lisieux, qui à l'époque était franc-maçon notoire et anticlérical. Il va se convertir rien que par, je ne sais pas ce qu'il avait lu de Thérèse, mais en tout cas, à ce moment-là. Voilà. Et Thérèse va être ainsi, comme ça, très très populaire. Elle va être populaire parce que son message... Eh bien, il tient quelque chose, deux extrêmes qui sont un petit peu impossibles pour les sages et les savants que nous sommes souvent, que nous croyons être souvent. Elle va tenir à la fois une foi, une relation à Dieu d'une très grande simplicité, très populaire, très, j'allais dire, démonstrative, très dévotion populaire, et une très haute mystique. Thérèse, c'est la plus grande sainte des temps modernes. Thérèse, c'est une très grande sainte à l'école de Jean de la Croix et de Thérèse d'Avila. L'école du Carmel étant l'école de la mystique par excellence. Hein, les plus belles paroles d'union à Dieu ont été écrites dans l'école du Carmel. Et Thérèse est de cette école et elle va concrétiser cette union à Dieu de façon étonnante, mais dans une simplicité de vie. Et c'est là que nous sommes interpellés. Dans notre oui, il faut dire oui à Dieu, mais pas mettre de limites. Il faut dire un oui de tout notre cœur à l'école de Thérèse. Thérèse, c'était quoi son oui ? C'était « Je t'aime, Seigneur. » Oui, je t'aime. Comme Saint-Pierre, quand il sera réconcilié avec Jésus. Thérèse est caractéristique par son amour. Elle dira « L'amour ne se paye que par amour. Dieu a tout donné par amour, il nous faut le payer par amour. Si nous n'aimons pas suffisamment le Seigneur, demandons-le !» Et encore une fois, il ne s'agit pas d'un amour superficiel, affectif, sensible. Vous savez, ce n'est pas cela qui nous fait avancer vraiment au final. On fait des petits pas, mais on ne va pas loin. Le grand amour, c'est celui qui nie pour la vie. Celui auquel on est attaché pour la vie, quelles que soient les épreuves. Demandons de grandir dans l'amour de Dieu. Soyons touchés par l'amour du Seigneur et demandons de lui répondre avec notre amour. Thérèse aimait Dieu. Moi, j'ai été personnellement touché en tant que diacre au départ, plus jeune prêtre, par cet amour. Quand j'ai lu Thérèse, j'avais lu d'autres saints, hein, mais j'étais touché par cet amour qu'elle avait pour Jésus. Cet amour qui fait que désormais, elle met toute sa confiance en Dieu et rien ne peut l'enlever de cette confiance. C'est pas parce qu'elle n'est pas exaucée, c'est pas parce qu'elle n'est pas mal. Enfin voilà, je tombe malade, enfin des choses. Ce que nous sommes là en train toujours de nous tracasser, ou bien de nous rentrer dans des combats intérieurs parce que sous prétexte que on n'a pas ce qu'on voudrait, comme des enfants gâtés, eh bien Thérèse, elle a dépassé tout ça. Elle aimait Dieu au point de lui faire confiance en toutes circonstances. Et elle a compris que le grand texte du Seigneur, le grand enseignement du Seigneur, de Jésus, c'est que de dire que Dieu est un Père et que nous sommes ses enfants. Et comme des bons parents, comme un Père, faut que je m'arrête là, comme un Père, un bon Père s'occupe de ses enfants. Il n'y a pas de problème. Même s'il nous arrive les pires des catastrophes, Dieu est un Père et nous sommes ses enfants, il n'y a pas de problème. Nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons même rien à demander, rien à refuser. Et c'est sur cette voie de la confiance et de l'abandon que Thérèse va cheminer. Celui qui se met dans cet état, confiance dans l'amour divin, indéfectible, cet amour de Père qui s'occupe de ses enfants, cette attitude de confiance et d'abandon, nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la joie. Quoi qu'il m'arrive, il vous arrive un accident, vous tombez malade demain d'une grave maladie, c'est pas grave. Dieu est un Père. Nous sommes ses enfants. Il prend soin de nous. Et puis qu'on le sache bien, le but de notre vie, c'est pas d'aller, ça me revient plus, d'aller à l'autre bout du monde pour prendre des belles vacances. Le but de notre vie, c'est d'aller au paradis. C'est d'être saint. Et Thérèse voudra être une très grande sainte, et elle le sera. C'est de s'installer dans cette confiance en Dieu et de grandir dans la sainteté. Cette sainteté accessible pour tous, comme le dira le Concile Vatican II. Devenir saint, c'est possible pour tous, mais pas devenir saint en se regardant soi-même, mais en fixant notre regard sur Jésus. Nos faiblesses, nos pauvretés, nos misères ne sont pas un obstacle à la grande sainteté. La sainteté se développe malgré nous si nous nous donnons complètement à l'amour divin, à l'amour de Dieu. Voilà, demandons au Seigneur cette grâce d'aimer Dieu comme Thérèse l'a aimé. Demandons à Thérèse de nous apprendre à aimer Dieu comme Dieu, comme elle l'a aimé, à la Vierge Marie aussi, d'entrer vraiment dans ce chemin de confiance et d'abandon. Voilà, ne restons pas à côté de l'autoroute que Thérèse propose. Mais allons-y dans la confiance et puis ne mettons pas d'obstacle à l'amour divin. N'empêchons pas, ne mettons pas de limite à l'amour divin. Amen.